La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je suis Florence Vanquali de l'Église évangélique libre de Toulouse. Aujourd'hui, nous reprenons l'émission La prédication protestante, une émission animée par une petite équipe déléguée par la pastorale protestante de Toulouse. Et en cette période de rentrée scolaire, la rentrée après l'été, j'aimerais aborder avec vous la question de la communication. Récemment, dans un établissement de santé, je suis tombée sur une charte de bonnes pratiques, comme on en voit en milieu médical, scolaire, commercial, au travail, etc. Et quand on lit ces chartes, on voit qu'elles prônent le respect et la bienveillance. Et si on n'avait que ces documents à disposition, on s'imaginerait qu'on vit dans une société idéale où chacun peut parler et être écouté de façon bénéfique. D'ailleurs, un archéologue du futur qui retrouverait ces documents se dirait que, décidément, notre société se préoccupe beaucoup de soutenir les relations par une communication juste et positive. Il n'aurait qu'à fouiller d'ailleurs dans les débris du rayon développement personnel d'une librairie pour retrouver un nombre incalculable de 6 titres à succès, manuels de communication et de relations, qui semblent fleurir depuis quelques années. Par rapport à cet archéologue du futur, nous avons une donnée supplémentaire, c'est l'expérience réelle des relations. Et franchement, cette expérience nous dit autre chose que les fameuses chartes. Cet été encore, j'ai été choquée de voir les réactions des uns et des autres, ne serait-ce que dans la rue. Les insultes qui fusent entre conducteurs à l'égard d'un vélo ou d'un commerçant qui demande à porter le masque, quand ça ne va pas plus loin, malheureusement. Ces mots malheureux nous blessent. Alors quand c'est des relations avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est grave, mais on s'en remet. Quand ce sont des relations importantes, ces mots viennent nous fragiliser profondément. Vous connaissez peut-être de ces adultes qui doutent d'eux-mêmes parce qu'à l'école, un prof a émis un jugement catégorique. Tu n'arriveras jamais à rien. On est aussi blessé lorsqu'il y a des vexations dans nos amitiés, au travail ou dans la famille. Et même entre chrétiens dans l'église. Il peut y avoir des paroles cassantes, violentes, simplement d'une insouciance absurde, parfois, de ces paroles qui, même si elles ne sont pas grossières, laissent des cicatrices. Vous savez, on peut être très très blessant juste en citant un verset biblique. J'ai malheureusement bien des exemples de personnes autour de moi qui ont été blessées, parfois au point de ne plus voir l'intérêt de venir en communauté. Et puis d'autres viennent, participent au culte, mais comme entourés d'une distance de protection. Il n'y a pas que le virus qui blesse. Il y a aussi tous ces mots entre nous. Alors l'enjeu est important. Est-ce nous qui sommes devenus trop sensibles aujourd'hui? Je ne crois pas, parce qu'en fait la question des paroles et de la communication revient très souvent dans la Bible. Et j'aimerais lire avec vous un extrait simplement de la lettre de Paul aux Éphésiens, où il exhorte à une communication saine. Alors je vais lire un texte un petit peu plus long que simplement ses conseils, parce que ces versets, avant et après, donnent le ton de la réflexion. Alors je lirai dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, d'abord les versets 1 à 3, et puis je continuerai ensuite à partir du verset 22. Je vous le demande, donc, avec insistance, dit Paul, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Ensuite, Paul donne toute une réflexion sur l'unité de l'Église. Il exhorte aussi à se laisser façonner par la réalité du salut et il continue « Selon la vérité qui est en Jésus, renoncez à votre conduite passée, débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, parce que ses désirs trompeurs mènent à la ruine, et laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de Dieu qui est inspiré par la vérité. Rejetez donc le mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que la personne qui volait cesse de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse le bien de ses propres mains, pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes, qui répondent à un besoin et qui sont constructives, pour faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Oui, chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris, les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande, un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Dans ces versets, Paul parle ici plus que de communication. Il nous exhorte à devenir des personnes nouvelles, ou plutôt à nous mettre en cohérence avec la nouveauté de vie que Dieu rend possible en Christ, par son Esprit qui nous conduit désormais. Paul est en train de nous parler de l'Église, et en nous exhortant à devenir des nouvelles personnes, il glisse très naturellement vers des exhortations relationnelles, très pratiques, du style « ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère ». Plus tard, dans la lettre, il abordera des questions plus personnelles. Mais on voit dans les lettres de Paul et dans la Bible en général que la sainteté, la pureté, c'est autant nos choix de vie que nos façons de gérer les relations. La pureté spirituelle, c'est aussi avoir des relations saines et une communication saine. Alors honnêtement, en termes de communication, les conseils de Paul ne sont pas très originaux. Ils s'inspirent beaucoup de l'Ancien Testament, mais même d'autres cercles. Dans la sagesse de l'époque, on retrouve le même genre de conseils. Par exemple, dans la communauté de Qumran, ou dans le monde grec, chez les stoïciens, les pythagoriciens, etc. En gros, on nous dit qu'il faut réfléchir avant de parler, ne pas mentir, ne pas laisser les situations s'envenimer. C'est du bon sens. Du bon sens. Pas toujours respecté, mais pertinent et efficace. Aujourd'hui, si vous parcourez des livres de communication qu'on trouve en tête de gondole, comme par exemple le manuel de communication non violente de Marshall Rosenberg ou les accords Toltec, vous trouverez pour la partie communication que c'est tout à fait en phase avec les conseils de Paul. Il s'agit là de bon sens pour favoriser des relations paisibles. La grande originalité biblique, la grande originalité de Paul, et c'est en ça qu'il se démarque des sagesses à la fois de son époque et de la nôtre, c'est que le cadre est différent. Le chrétien ne travaille pas sa façon de communiquer par souci pragmatique, simplement pour éviter les conflits qui fragilisent la société, les relations, ou pour sa santé, pour éviter un ulcère. Non, le chrétien change de communication parce qu'il a changé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à l'écoute, mais Paul justifie sans cesse ses conseils avec des affirmations spirituelles. Par exemple, « Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. » Nous sommes tous membres d'un même corps. Nous avons le même destin, la même identité et le même Dieu. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Vous êtes les enfants que Dieu aime, alors imitez-le. J'ai lu un très bon article d'un pasteur de Grenoble qui s'appelle Raphaël Charrier et qui évoquait la communication dans le couple. Je l'ai lu au début du confinement. Et c'était très intéressant parce qu'il rappelait dans son article que, bibliquement, l'objectif n'est pas de bien communiquer, mais de communiquer le bien. L'objectif n'est pas de bien communiquer, mais de communiquer le bien. Alors lui, il s'adressait essentiellement au couple et il disait que dans le couple, si vous exprimez avec justesse et précision toutes vos pensées, même les plus ambivalentes et même les plus destructrices, ce ne sera ni un geste d'amour, ni un geste constructif. Il invitait à se remettre en question et à se demander ce qu'on exprime. Hein. S'exprimer, c'est très bien, mais comment on l'exprime et surtout, qu'est-ce qu'on exprime? Est-ce que tout en nous doit être exprimé? D'après Paul, le Christ est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père, qui demeure en nous par son Esprit, pour que nous vivions pour toujours dans sa présence. Le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous dès aujourd'hui, pour nous connecter à Dieu, pour nous assurer de notre destin, et pour nous façonner aussi, pour nous changer pour le bien. Le Saint-Esprit renouvelle notre identité, un peu comme s'il nous assainissait, afin qu'il découle de nous une eau pure et rafraîchissante, et non pas de l'eau frelatée et nauséabonde. C'est ce bien-là, cette grâce qui vient de Dieu, que nous sommes invités à communiquer. Dans ses conseils, Paul nous livre en même temps des exhortations très précises et d'autres très générales, sur la colère, les paroles, la posture, la gestion de nos émotions, etc. Et tout serait intéressant à méditer. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on réfléchit un peu globalement, on pourrait résumer ces conseils, que je vous invite bien sûr à appliquer, par cette formule qui intervient plus tôt dans le chapitre 4 des Éphésiens, à savoir que nous sommes appelés à communiquer la vérité avec amour. Éphésiens 4:15. Communiquer la vérité. Dans notre société avide d'authenticité, ça sonne bien. Il y a un souci d'honnêteté, de simplicité, qui s'oppose à l'hypocrisie et à la duplicité. On dit les choses comme elles sont, sans manipuler, sans être faux, pour établir des relations de confiance. Les paroles fausses peuvent nous poser bien des problèmes. Premièrement, elles peuvent vite se retourner contre nous, si la vérité éclate, par exemple. Ou alors elles peuvent nous troubler de l'intérieur. Quand on sait qu'on a dit une chose, que la réalité est différente, on se retrouve dans un état de confusion. Et puis, si personne ne dit la vérité, comment peut-on se faire confiance? La confiance est essentielle pour être en relation avec l'autre. Et pour être en confiance, eh bien, il faut une dose de franchise importante. Mais au-delà de toutes ces considérations pragmatiques, nous appartenons au Dieu de la vérité et de la justice, en qui rien n'est double ou faux. Dieu est franc et il attend de nous la même franchise que ce qu'il y a en lui. Alors cette franchise, elle ne dispense pas d'aimer, de parler avec douceur et bienveillance, d'être attentif à l'autre pour éviter de blesser. Je ne sais pas si vous connaissez de ces personnes qui sont très franches et qui disent « Ah ben moi, de toute façon, je suis franche, hein, je dis ce que je pense. » Oui, enfin, parfois c'est un petit peu façon bazooka. Hein. Leur focus est surtout sur eux et sur ce qu'ils pensent et quand on reçoit leurs paroles, on doit mettre du temps pour s'en remettre. Paul invite les francs à se mettre du côté des auditeurs et à tester la douceur. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça de cette façon-là? Soyons rassurés, un peu de douceur n'éteindra pas la vérité. Hein. Regardez par exemple Paul et Jésus, ce n'étaient pas des mous, on ne peut pas dire ça. Pourtant, ils avaient beau dire ce qui était vrai, ils avaient beau être francs, la plupart du temps, ils parlaient avec délicatesse et respect. La franchise bazooka répond à un fléau inverse, c'est ceux qui ne disent rien pour ne pas faire de mal. Et là encore, il y a une bonne intention, hein. Mais en général, ces personnes-là rongent leurs freins jusqu'à ce qu'ils explosent ou qu'ils partent. Mais ce n'est pas mieux, parce que souvent, à force de ne rien dire, on en vient à tolérer des situations de compromis, des incohérences, des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est tout l'ensemble qui finit par se frelater, en dehors du fait que la personne qui se tait en souffre. Pour garder des relations saines, Paul invite les doux à dire ce qu'ils pensent et à tester la vérité, à ne pas se focaliser que sur la réaction de l'autre, mais aussi à oser dire ce qu'ils pensent. Dans une relation saine, que ce soit à l'église, en famille, au travail, partout en fait, hein, dans une relation saine, il y a de la place pour l'autre et pour moi. Alors ce n'est pas toujours du 50-50, le dosage peut varier selon les circonstances, les responsabilités, les contextes, mais les deux sont essentiels pour que la relation fonctionne. communiquer la vérité avec amour. On est tous plutôt d'un côté ou de l'autre, hein, plutôt vérité ou plutôt amour. Mais notre Dieu est un Dieu de vérité et d'amour. Et depuis la création, depuis notre recréation en Christ, son travail, son projet pour nous, c'est que nous puissions devenir comme lui, inspirés par l'Esprit Saint, à l'exemple du Christ. Trouvez l'intrus. Rejetez donc le mensonge, que chacun dise la vérité, mettez-vous en colère mais sans péché, que la personne qui volait cesse de voler, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes, soyez bons et pleins d'affection, etc. Il y a un intrus dans ces exhortations. Pourquoi Paul vient-il nous parler du vol ? Alors je me dis que peut-être qu'après avoir parlé du mensonge, emporté par ses souvenirs des 10 commandements, il se met à aborder le vol, et puis il revient à son premier thème, la communication. Mais je me demande s'il n'y a pas une autre possibilité. Le voleur, c'est celui qui ne participe pas. Il prend, il profite de la situation aux dépens des autres, mais il ne donne rien en échange. Il est centré sur son intérêt, sur son nombril, dans une relation qui ne va que dans un sens, le sien. Paul invite le voleur à changer d'attitude, à adopter une attitude responsable, qui consiste à se prendre en charge en travaillant, et généreuse, d'avoir le souci des autres pour leur venir en aide. En fait, cette attitude responsable et généreuse est très cohérente avec les questions de communication. Dans la relation, même sans parler de vol, nous sommes appelés à nous impliquer nous-mêmes, tels que nous sommes, quitte à nous rendre un petit peu vulnérables. Mais la générosité s'allie à l'engagement, à l'implication personnelle, parce que nous ne cherchons pas seulement notre bien dans la relation, mais aussi celui de l'autre. La vie en communauté, les relations réelles, hein, je ne parle pas des réseaux sociaux qui simplifient beaucoup les interactions, mais les relations réelles demandent un engagement de notre part. Et Paul est très clair là-dessus. Il faut faire des efforts. Il le répète plusieurs fois. Il faut faire des efforts. Il faut s'efforcer d'être humble, doux et patient. Nos relations ne seront saines que si nous y mettons du nôtre. Et il faut avouer que ce n'est pas toujours agréable. Dans nos communautés d'église, nous sommes tellement différents. Il y a des cultures, des habitudes, des tempéraments qui s'entrechoquent. Et puis, au-delà des différences neutres, on va dire, qui sont juste différentes, il y a aussi notre péché, ce qui est mauvais en nous. Hein, nous sommes si longs à changer. Alors nous, c'est pas très grave, mais les autres aussi sont longs à changer. Alors Paul nous invite à nous supporter les uns les autres, dans les deux sens, à nous soutenir, mais aussi nous supporter, être patient, et parfois même, souvent, nous pardonner. Pardonner les paroles malheureuses, les silences, les réactions bizarres, les lenteurs de réaction, les incompréhensions, les malentendus. Pardonner. Hein, cet effort pour que les relations soient saines et bienfaisantes, eh bien cet effort, il commence dans notre cœur, avec nos décisions. Pas chez l'autre, hein, dans notre cœur. Un effort qui consiste à lutter inlassablement contre le soupçon, la rancœur, l'amertume, pour laisser à l'autre le bénéfice du doute, pour être plein de grâce et choisir de regarder l'autre d'abord comme un frère dans la foi et pas comme un ennemi. Parce que Dieu nous a fait grâce en Christ et il nous appelle à faire grâce. Parce que Dieu nous a appelés à vivre avec lui et il nous appelle à vivre ensemble pour l'éternité. Alors il nous appelle à communiquer cette grâce dont il nous remplit. Et cette communication, elle est valable dans l'Église, mais aussi au-delà. À l'ère où la communication est tellement centrale dans notre société, mais où les relations sont si fragiles, quel témoignage si nous sommes de ceux qui communiquent la grâce, qui disent la vérité avec amour, qui sont authentiques et attentifs aux autres. Regardez Jésus. Jésus franc et doux qui attirait les foules. Ah, que nous puissions lui ressembler, en public, en privé, dans l'église et en dehors, en présentiel et en virtuel, même dans nos mails, afin que la grâce de Dieu soit communiquée au plus grand nombre.
Of Christ, my Lord.